Je ne sais pas si vous connaissez le chant « Torrent d'amour et de grâce ». Peut-être certains s'en souviennent. On l'a peut-être chanté à l'occasion ici. Ça a été repris par le groupe, ou en tout cas le projet Héritage, il y a quelques années. Et ce chant « Torrent d'amour et de grâce » décrit la mort de Jésus comme le jaillissement d'un fleuve immense. Sur la terre, un grand fleuve d'amour, en fait. Et c'est la croix de Jésus qui a causé ça. Et n'importe quelle personne qui se tourne et qui regarde vers cette croix est comme pris dans le courant et puis ramené à Dieu. Ça nous rappelle que la croix de Jésus, et on l'a chanté tantôt dans un autre chant, la croix de Jésus a vraiment marqué un avant et un après. Ça a commencé un nouveau maintenant de Dieu. Alors, toi qui es ici ce matin, quels que soient tes problèmes, si tu es ici, ben tu es dans le nouveau maintenant de Dieu, puis il y a vraiment des bonnes nouvelles pour toi et pour tes problèmes. Les bienfaits de Dieu, les bienfaits de la croix sont à ta disposition. Et Dieu les a rendus clairs devant nos yeux. Et j'espère que tout ça va éveiller de la joie en toi ce matin, surtout si tu vis des choses difficiles. Éveiller plus de foi, plus de remerciement envers Dieu. Alors, voilà, on reprend notre série sur Romains. Et on va commencer aujourd'hui à explorer la bonne nouvelle, explorer les bienfaits de la croix. En fait, quand on dit la croix, on n'oublie jamais la résurrection. Ça va ensemble. Mais c'est cet événement-là qui a duré 3 jours, puisqu'il y a eu sa mort, il y a eu la résurrection de Jésus, ça part un fleuve d'amour et de grâce. Mais avant de lire le texte, je vous invite à prier. Prions ensemble. Éternel Dieu, tu es vraiment un fleuve d'amour, un torrent de grâce. Et puis vraiment, on veut vraiment en profiter. On veut vraiment être à ton écoute ce matin, tel que nous sommes. Et peut-être que je me sens faible, peut-être que je me sens indigne, peut-être que je me sens bien, peut-être que je me sens débordé par mes problèmes, mais aide-moi à tourner mes yeux vers toi et vers ce que tu m'offres en Jésus ce matin. Et toutes ces choses, nous prions en son nom. Amen. Alors, on va lire le texte. À partir du... c'est le chapitre 3 de Romains, à partir du verset 19. Si quelqu'un a sa Bible, n'hésitez pas de tourner à 3:19 dans Romains. Sinon, vous pouvez suivre à l'écran. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi, ça veut dire les Juifs pratiquants de l'époque de Paul. C'est à ceux qui vivent sous la loi, les Juifs, qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés ou déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Yeah! C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il démontre dans le temps présent, de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Donc, on dirait qu'il manque une diapo. Excusez-moi, je me suis trompé avec les diapos. Mais on va expliquer quand même le texte, étape par étape. Donc, vous avez peut-être remarqué au milieu, il y avait un gars qui jouait de la trompette. Et en fait, c'est parce que ce texte qu'on vient de lire, c'est une des grandes transitions de la lettre de Paul aux Romains. Ça passe de la mauvaise nouvelle, on en a parlé pendant quelques semaines, la mauvaise nouvelle qui rend la bonne nouvelle nécessaire, et ça passe à la bonne nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle, ça comme couvre trois chapitres, et donc Paul explique en détail c'est quoi notre problème, puis pourquoi il est grave et pourquoi on n'est pas capable de s'en sortir par nous-mêmes. Et après ça, il y a « et maintenant » ou « mais maintenant » qui annonce en fait le but réel de la lettre, qui est la bonne nouvelle. Il faut qu'on la comprenne, cette bonne nouvelle. Il faut que toi, ce matin, tu rentres chez toi avec une compréhension un petit peu plus claire, j'espère, de la bonne nouvelle. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle pour toi? Paul avait dit au début de la lettre, avant d'expliquer la mauvaise nouvelle, il dit que son but, c'est qu'on comprenne qu'est-ce que Dieu a fait et quelle est cette bonne nouvelle ou quel est cet évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, nous voulons regarder les trois parties du texte qu'on vient de lire, premièrement, le résumé final de la mauvaise nouvelle. Ensuite, mais maintenant, n'oubliez pas le gars avec la trompette. Et puis, troisièmement, la bonne nouvelle. Dieu révèle sa justice. Allons-y. Premièrement, juste le résumé final de cette mauvaise nouvelle, c'est peut-être plate d'en parler, mais c'est tellement important parce que ça nous aide à comprendre qui on est devant Dieu. Et ça enlève les mauvaises compréhensions. Il y avait un théologien, Jean Calvin, qui avait dit une fois, « Au fond, la vraie foi, c'est de connaître Dieu puis de se connaître soi-même. Puis avec ça, t'as tout. » Puis il dit, le problème, on a une fausse conception de Dieu puis une fausse conception de nous-mêmes, puis on avance dans la vie en vivant mal. Alors, Paul est vraiment en train de nous guider ici et il commence avec la réalité de qui nous sommes. Et il termine cette section avec deux versets. On les a lus. Et finalement, il répète que la vérité fondamentale ici, c'est vrai que Dieu nous a créés, nous sommes beaux, nous sommes bons. Malheureusement, on a un problème intérieur. Nous sommes pécheurs. Nous sommes sous l'emprise du péché, tout le monde. Et c'est une genre de rébellion qui se manifeste la plupart du temps par une indifférence et un désir d'autonomie face à Dieu. Bien, on a été créés pour être en relation avec lui et sous sa direction. Mais on ne veut pas. Et c'est ça, le péché. Et parce que Dieu est saint et qu'il est notre juge, tous les humains finissent par l'offenser. Et comme dit Paul, et on vient de le lire, tous vont être reconnus coupables devant lui. Aïe, aïe! Paul a même parlé de quelque chose, et on l'a expliqué une fois, la colère de Dieu, qui est différente de la colère humaine, mais qui fait quand même partie de cette réalité à laquelle on doit faire face. On a vu que la colère de Dieu, c'est dans l'amour, et cette colère veut nous ramener à la vérité. Et Paul ici dit, il n'y a aucune catégorie d'humains qui est exemptée de ce que je viens de dire, ni du péché, ni du jugement. Aucune catégorie de personnes supérieures aux autres qui échapperait à la condamnation future, puis même dans un sens actuel de Dieu. Et Paul pense surtout à son époque aux Juifs religieux, aux personnes religieuses. Et à l'époque, c'était, et dans ce contexte, c'était les Juifs, et qui pouvaient faire erreur ici peut-être plus facilement que les autres. Peut-être, peut-être pas, mais ils pouvaient se dire, bien, nous, on a la Bible. Dieu nous a donné sa parole, il nous a donné son alliance, il nous a donné les rituels d'entrer dans l'alliance, puis on les a pratiqués. Et on connaît les commandements, puis on les pratique le mieux qu'on peut. Puis oui, bien sûr, on a des manquements, on ne les pratique pas toutes. Mais Dieu sait que nos intentions étaient bonnes. On est son peuple, on est correct. Erreur fatale, nous dit l'Épître aux Romains. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce que ça veut dire, privé de la gloire de Dieu? Ça peut être traduit aussi. Tous ratent finalement dans leur effort pour atteindre le salut éternel. Ça serait une autre manière de le dire. Que tu sois juif ou pas. Donc, dans le monde religieux, et malheureusement, on en fait partie parce qu'on est des chrétiens, on a la Bible, on pratique aussi des choses. Et les gens de l'extérieur, même si nous, on se dit, bien, on n'est pas des ritualistes, mais les gens de l'extérieur nous voient comme des gens religieux. Et nous avons la Bible aussi, comme les Juifs, et on peut faire cette erreur, nous aussi. Paul nous dit qu'il y a une fausse manière de lire la loi de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Il y a une manière superficielle et mauvaise de lire, où on se dit, bien, je suis une bonne personne, je vais juste identifier les commandements de Dieu le mieux que je peux dans la Bible et les observer en espérant que Dieu va être content. Et Paul vivait comme cela. Et il dit lui-même à un certain moment, j'étais le meilleur dans ce jeu-là de paraître bien au niveau de la religion. Et dans mon idée, devant Dieu, j'étais peut-être le numéro un. Mais il a réalisé qu'il se trompait quand il a rencontré Jésus. Il y a une autre manière de comprendre. Et c'est un petit peu... est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le film Le Titanic? Il y en a-tu qui l'ont déjà vu? Il y en a, est-ce que vous connaissez l'histoire? C'est comme, mettons, OK, le bateau, il vient de couler, là. Puis, tu as du monde qui sont là, en train de nager, au milieu de l'océan, dans de l'eau super froide. Puis, peut-être que toi, on va dire ça, c'est comme l'image de la personne juive pratiquante qui connaît bien la Bible. Toi, tu sais vraiment comment nager longue distance. Au fond, ça ne va pas t'aider plus que la madame à côté de toi qui n'a jamais appris à nager. Tout le monde va malheureusement mourir. Alors, c'est un peu ça que Paul nous dit par rapport à nous devant le jugement de Dieu. N'est pas une fausse lecture de la Bible, n'est pas une fausse assurance dans la religion. C'est pour ça que Paul dit au verset 20, « Personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » Ô Seigneur, donne-nous cette humilité pour lire la Bible de la bonne manière, afin qu'elle élève à nos yeux ta sainteté et qu'elle rabaisse mon orgueil, notre orgueil. Que ta parole reflète vers nous, comme un miroir, notre besoin de ta grâce. Qu'elle nous dirige, non pas vers un activisme de bonnes œuvres, mais vers ta croix. La deuxième section du texte, maintenant, c'est bien court, c'est deux mots. Mais maintenant. Alors, comme j'ai dit, c'est le grand tournant du début de la lettre. Et à partir de ces deux mots, quand on relit le texte, vous allez voir, le langage devient joyeux. C'est comme, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé, qui est meilleur, qui est bienfaisant, qui est permanent. La bonne nouvelle. Et puis là, on va passer du temps avec Paul à la comprendre mieux, pour qu'elle rentre dans nos cœurs, pas juste dans notre tête, mais que ça soit vraiment quelque chose qui va aller jusqu'à transformer nos attitudes et nos comportements. Nous sommes aimés de Dieu. Bien, il ne faut pas que je me devance trop vite, là. Mais la manière que Paul y voit les choses, il utilise des mots qui parlent de lumière puis de visibilité. Il va dire, Dieu a manifesté la bonne nouvelle et il a révélé sa justice. C'est un peu comme une personne qui... OK, imagine-toi que tu es dans ta chambre en pleine soirée, il fait très noir, tu as une course à faire qui est urgente, puis il y a une panne d'électricité, tout d'un coup. Ça nous arrive. On sait c'est quoi. Puis la noirceur est totale. Puis toi, tu cherches tes clés, les clés de ta voiture, désespérément, dans ta chambre. Bien, la situation est difficile. Puis tu ne trouves pas tes clés. Puis tout d'un coup, paf, le courant est rétabli. Les lumières se rallument. Puis peut-être t'entends des beeps parce que je n'ai pas ton micro-ondes a reparti, puis tout. Mais là, l'affaire, c'est que tu vois tes clés, tu les prends, puis là, tu peux aller dans ta voiture pour ta course urgente. Alors, la manière que quelqu'un nous raconterait ça, ça serait, « Ah là là, j'étais dans la noirceur, je tâtonnais, j'étais frustré, je me suis même fait mal en me cognant contre les meubles. » Rien fonctionnait, puis je paniquais. Mais maintenant, je vois, la lumière est revenue, je me sentais libre de mes mouvements, et puis j'ai vu mes clés, je les ai pris. Mon problème est résolu. Alors, c'est un peu ça, comment Paul y voit le temps depuis que Jésus est venu, et surtout depuis sa croix. Et donc, quand vous relirez la lettre aux Romains, J'espère que vous allez vous souvenir de ces deux petits, de ces deux petits mots, mais maintenant. On est dans ce maintenant qui est comme une période. C'est comme une période merveilleuse, même si ça fait 2000 ans, mais on vit dedans et puis on est bénéficiaire, pas de quelque chose de nouveau, parce que dans un sens, Dieu avait planifié tout ça depuis l'éternité, d'envoyer Jésus, de donner le salut. Et même, il y a des personnes dans le temps d'Israël, et même, je crois, des individus à l'extérieur d'Israël qui, dans la noirceur, ont comme compris, ils ont trouvé les clés, ils ont compris comment on recevait le salut, par la grâce, en demandant pardon à Dieu. Et ils ont été sauvés. Mais nous, nous vivons dans le maintenant de la lumière. C'est ça qui est merveilleux. Et ce qu'on fait ce matin, c'est bénéficier de cette lumière en lisant ces textes. Allons à notre troisième section. La bonne nouvelle, Dieu révèle sa justice. Alors, on va juste surtout essayer de comprendre un mot. C'est quoi la justice? Et particulièrement, c'est quoi la justice de Dieu? OK, trois mots. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, la justice de Dieu? Alors, en français, la Bible n'a pas été écrite en français, mais nous, on la lit dans une traduction en français. Et en français, quand on parle de la justice de quelqu'un, ça a un sens assez précis. Un patron qui est juste, qui exerce la justice, ou un juge qui est juste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça se limite surtout à l'idée, qui est très importante, que quand il prend des décisions pour un groupe ou sur une personne, il est égal par rapport aux autres. Il est impartial. Il traite tout le monde de la même manière. Pas de favoritisme, puis pas de méchanceté. Il est égal envers tous. C'est ça, dans notre tête, quand on dit « Dieu est juste », on a tendance à se limiter à ça. Et dans la Bible, le mot ou l'expression « justice de Dieu », ça inclut ça, mais c'est beaucoup plus large. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que c'est des mots hébreux et puis grecs et qu'on traduit par « justice » en français. Et en fait, quand on parle de la justice de Dieu dans la Bible, ça inclut l'idée que c'est un juge qui n'aura pas de favoritisme, qui va être impartial, c'est vrai, mais il y a aussi ceci, c'est que dans son caractère, Dieu, il a cette impulsion, ce désir de rendre droit qu'est-ce qui est devenu croche. OK? C'est pas juste un Dieu qui veut garder droit les principes de justice qu'il pratique. C'est qu'il va plus loin, il veut corriger, il veut rendre droit qu'est-ce qui est devenu croche. En français, il y a le verbe justifier, qu'il y a un des sens du verbe justifier, pour ceux qui font du traitement de texte, qui va dans la direction un peu comme celle de la Bible. Quand tu justifies ton texte, ça veut dire que tes marges, si elles sont croches, vont devenir droites. Hein? Tu presses sur le piton justifié, puis là, ta marge va devenir droite. Donc, ça fait penser un peu à ce que je viens de dire, qu'on a un Dieu qui est, non seulement c'est pas juste un juge impartial, mais c'est un juge qui veut venir en quelque sorte amener la justice dans les endroits et les personnes injustes, les humains en particulier. Alors ça, c'est un concept vraiment important. Je répète, Dieu qui est juste veut venir rendre droit et correct ce qui est devenu croche. C'est ça la bonne nouvelle que Paul a découverte et qui a changé sa vie. Avant, il pensait, OK, c'est un juste juge impartial qu'il faut que je performe et que j'accumule des mérites pour que j'ai une chance d'être sauvé. Et il a compris, non. En fait, personne n'est capable de faire ça, mais Dieu a envoyé Jésus pour ensuite me donner une justice. Dieu est un Dieu qui communique sa justice, qui est en fait celle de Jésus-Christ. Nous aurons l'occasion de l'expliquer davantage à d'autres dimanches, mais Paul dit que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et puis si tu crois en Jésus-Christ, tu as reçu ça aussi, tu as reçu la justice de Dieu comme un cadeau gratuit. C'est ça que la Bible appelle la grâce. D'ailleurs, il y a le mot « gratuitement » dans le texte, et aussi le mot « grâce ». Et donc, comment est-ce qu'on reçoit cette justice de Dieu, qui est comme une genre de perfection devant le tribunal? Ça nous est donné par la foi et on le reçoit par la foi. Tu le reçois juste en disant, Dieu, je suis pas capable de me sauver moi-même, mais je reçois ton salut, ton pardon, ta justice. C'est le cadeau. Si tes parents t'offrent un cadeau de Noël ou un cadeau de fête et te disent, ben, voici un cadeau, c'est quoi la seule chose que tu dois faire pour l'avoir? Le prendre. Oui, le prendre avec tes mains. Et la foi, c'est un peu ça. C'est un genre de geste, mais c'est un geste de réception. Comme recevoir un cadeau. J'aimerais maintenant dire quelque chose de très important pour ceux qui sont débutants dans la foi ou pour ceux qui se sentent faibles dans la foi. Une bonne nouvelle pour toi. Si tu places ta foi en Jésus, si tu l'as déjà faite, si tu as déjà dit cette prière, « Oh Père, je reçois ton salut. Je veux recevoir Jésus dans ma vie. Viens dans ma vie, Jésus. » Bien, la bonne nouvelle, c'est que la première chose que Dieu fait et qu'il veut que tu saches, c'est qu'il te déclare juste. Ça, c'est les mots de Paul. Dieu te déclare juste. Ça, c'est quelque chose qui est un peu en dehors de toi. Dieu te déclare innocenté, pardonné. Et il va te recouvrir d'une justice par sa déclaration. C'est quelque chose que lui fait. Alors, imagine, tu es comme un criminel, tu es assis dans le banc des accusés, et puis tu le sais que tu es coupable. Et puis, le juge, après, je ne sais pas ce qui est arrivé dans le procès, il dit... Je te déclare innocent, acquitté. Tu peux partir. Peu importe tes émotions à l'intérieur, tu es libéré, tu es acquitté. Et ça, c'est très important pour nous, pécheurs que nous sommes, dans le salut de Dieu. Et c'est ça que Paul dit qui est la base de la bonne nouvelle. On est déclaré juste. Même avant que notre foi devienne mûre, on est déclaré juste par Dieu, même avant que notre comportement change. Tu es déclaré juste même avant que tes problèmes de vie soient résolus. Tu es déclaré juste même avant que tu apprennes à aimer comme Dieu veut que tu aimes. Tu es comme certifié juste. Et en fait, il y a beaucoup plus qui se passe, c'est que Jésus, lui, il vient vivre en toi, et puis c'est là que tu vas être transformé petit à petit. Mais ça ne se voit pas nécessairement du jour au lendemain. Et ça peut être à des vitesses différentes selon les personnes. Chacun de nous est différent. Ces choses vont venir progressivement, mais en attendant, sois sans crainte devant Dieu, parce qu'il t'a déclaré juste. Amen. Ah oui. Oui, lorsque Dieu te regarde, il te voit juste, c'est-à-dire justifié, c'est-à-dire déclaré non coupable et même plus, déclaré une personne en quelque sorte parfaite que tu vas éventuellement devenir par sa grâce. Quand il te regarde maintenant, il te voit avec aussi le cadeau qu'il t'a donné, qui est cette espèce de manteau de justice. Et ça me fait penser à le chant que je mentionnais tantôt, « Torrent d'amour et de grâce ». Le refrain dit ceci, c'est quand même intéressant comme langage. « Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. » C'est beau. C'est beau. Et c'est pour ça que on vient poquer. On vient tel que nous sommes. On vient au niveau où on en est dans notre cheminement, dans le Saint-Lieu, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Et on est couvert par la justice de Jésus qui nous est comme donné quand on l'accepte par la foi. Tout ça, c'est assez abstrait, mais j'espère que vous comprenez un peu mieux ce matin. Et on va conclure. J'ai oublié qu'est-ce qu'il y a dans la prochaine diapo. Ah, parfait. On est invité par Jésus à sa table ce matin, qui a été préparée pour nous. Et Jésus veut qu'on mange le pain de son amour, qu'on boive le fleuve dans le fleuve.